Bonjour à tous et à toutes. Il est 11h, donc on va commencer ce webcast aujourd'hui. Donc, je vais me présenter, Jean-Bernard Rambaud, et je suis associé chez PwC France. Je suis aussi joint ici, vous voyez sur l'écran, Jamal Bachrir. Et Jamal est aussi un leader justement du groupe cybersécurité à PwC France. Donc aujourd'hui, le sujet de notre conversation, je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer, mais le sujet de conversation, c'est justement analyser les résultats de notre enquête Global Digital Trust Insight de 2021 et de regarder un petit peu les grandes tendances du jour justement sur ce sujet. Donc, on va passer un petit peu entre à peu près 40 minutes pour vous délivrer le contenu de cette enquête et de préciser les points les plus importants. Et ensuite, on va répondre à vos questions. Alors, n'hésitez pas tout au long de la conversation de poster justement des questions sur le chat qui est disponible sur votre écran. Et à la fin, on va répondre à toutes vos questions. Si on a le temps, bien sûr, on aura 20 minutes pour y répondre. Par contre, à la fin, à la vraie fin du webinaire, on aura un questionnaire de satisfaction qu'on aimerait bien aussi que vous puissiez y répondre. Ces 4 ou 5 questions qui seront très rapides, ça nous permet justement d'améliorer ce type d'événement et de savoir si vous avez été satisfait de cette conversation. Donc, bonjour à tous. Commencez par vous dire un petit peu l'état des faits sur justement notre enquête et ce qu'elle a identifié. Donc, pour les objectifs, qu'est-ce que cette enquête? Donc, on l'a fait tous les ans, PwC l'a fait ça tous les ans. Cette année, on a fait cette enquête entre juillet et août de 2020. Il y a à peu près 3 200, 3 300 participants. Donc, les participants, c'est des chefs d'entreprise, des comités exécutifs, bien sûr, les professionnels de la cybersécurité. Donc, en bas, ici, vous voyez un petit peu les différents groupes qui ont participé. Vis-à-vis des industries aussi, à peu près 22% en technologie, les marchés de la consommation, les services financiers, la construction, la santé. Donc, il y a une bonne répartition en fin de compte des données vis-à-vis des secteurs clés et aussi vis-à-vis des régions. Donc, vous voyez l'Europe de l'Ouest, l'Amérique du Nord. Donc, il y a aussi une bonne répartition des clients vis-à-vis des différentes parties du monde. Donc, sur cette présentation, nous avons accentué un petit peu les résultats français vis-à-vis du reste du monde pour vous donner justement un petit parallèle des résultats de notre environnement vis-à-vis du reste du monde. Les tendances clés. Alors, quels sont les points importants de cette enquête? Primo, la sécurité et la stratégie. C'est-à-dire, il y a vraiment un changement au niveau de revoir la stratégie et revisualiser en fin de compte toute notre sécurité, la stratégie de la sécurité avec le leadership. Ça, c'est un point très important. Le deuxième point très important, c'est justement renforcer la résilience cyber pour prendre en compte de nouveaux scénarios et acteurs. Donc, tout ce qui est résilience et en fait avec le COVID, cela ne doit pas vous étonner. Et en troisième point, accroître l'efficience justement des fonctions cyber, donc faire les choses avec plus d'efficience, plus les optimiser, mais aussi optimiser nos budgets et capitaliser sur l'investissement humain, c'est-à-dire faire les choses avec des gens plus qualifiés, avec des ressources qui puissent faire beaucoup plus de choses, que ce soit avec de l'outillage, avec des formations plus adaptées, et bien sûr des budgets qui sont toujours difficiles, mais qui doivent optimiser les résultats. Donc, on va parler de ces 3 points très intéressants, et on va commencer bien sûr avec tout ce qui est stratégie. Donc, sur la stratégie, on va revoir un petit peu l'évolution et ce que l'enquête a révélé en fin de compte au niveau stratégie. Donc, l'enquête a été très claire, 96%, donc c'est très, 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 très clair que les répondants de l'enquête souhaitent ajuster leur stratégie de cybersécurité à la suite du COVID. Donc, ça, c'est très important parce qu'en fin de compte, il y a l'effet COVID a fait réaliser que au niveau résilience, au niveau adaptation, au niveau travail à distance, au niveau accès à l'information, il y a plein de paramètres qui ont mis un petit peu en évidence que notre stratégie cyber n'est pas forcément adaptée à ce genre de crise et qu'il faut mettre en... Il faut adapter en fin de compte la stratégie entière au niveau sécurité pour qu'on puisse prévoir justement ce type de transformation, ce type d'adaptation vis-à-vis des crises, par exemple comme COVID, mais il y en a d'autres. Il y a aussi une chose importante, c'est que auparavant, dans les décisions commerciales, c'est-à-dire tout ce qui était métier ou les projets de transformation, la moitié, en fin de compte, des répondants voulaient, en fin de compte, prendre en compte la sécurité dans leurs décisions, alors que l'année dernière, c'était que 25%. Donc ça, c'est une très, très bonne trajectoire, c'est-à-dire que quand on a des projets de transformation, quand on a des solutions métiers ou des changements métiers qui sont très, très stratégiques, très importants, finalement, la sécurité est intégrée dans ce décisionnel, qui est une très, très bonne chose. Donc, au niveau stratégique, la sécurité change et on est un acteur très, très important dans le décisionnel et on est de plus en plus en point à justement faire partie justement de décisions stratégiques au niveau de l'entreprise. Donc, vis-à-vis de ce changement stratégique, il y a de nouveaux acteurs, en fin de compte, qui viennent se définir. Alors, on a trois groupes d'acteurs. Les chercheurs d'efficacité, donc ça, c'est un petit peu, on cherche tous de l'efficacité de ce qu'on fait au niveau cybersécurité, comment on dépense nos budgets, comment on dépense nos ressources, ça est resté assez, assez important. Les modernisateurs, sont des gens qui essayent de moderniser, c'est-à-dire tout ce qui est artificial intelligence, tout ce qui est digitalisation, tout ce qui est accélération, automatisation des processus. Donc ça, ça a baissé un petit peu, mais il y a un gain quand même des redefiners et des explorateurs. Donc les redefiners, c'est ceux qui carrément changent les business models. Ils veulent opérer vraiment différemment. Donc ça, c'est tout ce qui est cloud, transformation, tout ce qui est les transformations de plateformes, les migrations vers des services externes, des choses comme ça qui vraiment transforment la façon dont on fait du business. Et il y a aussi les explorateurs. Et les explorateurs, c'est des gens qui vont dans des dimensions de métiers vraiment différents où ils vont chercher, par exemple, des angles différents avec des business models qui changent. Donc, c'est-à-dire s'intégrer dans des verticales de business où il ne participe pas auparavant. Donc, c'est vraiment changer, explorer de nouvelles tendances qui permettent, bien sûr, de faire grandir le business. Donc, aujourd'hui, on a une tendance et il y a des nouveaux acteurs, les redefiners, les explorers. Et mon conseil, c'est vraiment d'identifier ces gens-là et vraiment de les connecter sur la page cyber pour justement travailler main dans la main avec ces redefiners, avec ces explorateurs, pour vraiment intégrer le sujet cyber dans ce décisionnel. Car quand on fait, par exemple, un move to cloud, une migration vers le cloud, quand on fait un SAP, quand on fait des choses vraiment très, très critiques, il faut absolument que le décisionnel cyber soit dans le corcon, l'enveloppe, en fin de compte, de ces transformations. Donc, le contexte actuel vis-à-vis de la crise, on a un petit peu une chance, en fin de compte, qu'il faut quand même saisir, c'est le COVID met en avant, en fin de compte, le besoin sécuritaire et met en avant le fait que la sécurité doit être intégrée dans la décision métier. Donc, à 50%, et ça a beaucoup évolué vis-à-vis de l'année dernière, 50% maintenant des répondants disent oui, on a bien intégré la cybersécurité justement dans les décisions métiers. C'est vraiment une très, très bonne avance. C'est très important. On l'a dit depuis des années déjà, mais ça commence à être une réalité. Donc, il faut aligner en fin de compte la stratégie cyber, non seulement avec la vision et les objectifs de l'entreprise, mais aussi concevoir une stratégie cybersécurité en incluant les métiers et s'assurer que le programme cyber s'exécute en support justement de la transformation digitale et vraiment c'est créer cette culture de trust, de confiance dans l'entreprise. Donc, d'où le nom de notre enquête, Digital Trust. Mais en fait, si vous arrivez justement à créer cette culture de Digital Trust au travers de l'entreprise au niveau stratégique, au travers des métiers, au travers, bien sûr, de votre groupe et des actions des individus qui travaillent dans l'entreprise, je pense que ça, c'est un très bon défi à se mettre. Et là, l'enquête a vraiment révélé qu'il y a du progrès sur ce domaine-là. Une chose importante que le COVID aussi nous fait bénéficier, c'est en fin de compte l'approche cybersécurité au niveau interaction avec le côté exécutif. C'est-à-dire que les entreprises, pendant la crise, ont augmenté leur interaction avec les responsables, les comités exécutifs, les conseils d'administration. Donc, il y a plus de 40% des répondants qui disent que oui, depuis la crise, on a beaucoup, beaucoup plus de visibilité avec le comité exécutif. Donc, profitez-en. Il y a, on est écouté, on est apprécié, on a plus en plus l'interaction avec justement le décisionnel. Donc, ça, c'est une bonne tendance. Il faut en profiter pour justement câbler et centrer nos objectifs, les faire comprendre et conduire des changements plus profonds dans l'entreprise vis-à-vis du cyber. Donc ensuite, la deuxième phase, donc on a parlé bien sûr stratégie, on a parlé de tous les choses positives et de changements au niveau COVID et que l'enquête a révélé. Maintenant, le deuxième volet, c'est vraiment renforcer la résilience cyber pour prendre en compte de nouveaux scénarios et de nouveaux acteurs. Donc COVID, bien sûr, ça a été un nouveau scénario, un nouvel acteur, mais le sujet résilience s'est étoffé. Donc, la problématique dans les entreprises, c'est ils commencent quand même à en prendre conscience. Donc, l'enquête a révélé que ça évolue assez positivement. Donc, 31% envisagent de passer d'un modèle de continuité d'activité métier à un modèle de résilience cyber. Donc, dans le passé, bien sûr, on était dans le mode continuité avec des choses de recoverabilité, surtout au niveau technique. Maintenant, on parle vraiment de résilience, c'est-à-dire de processus de technologie pour avoir des résultats et pas d'interruption au niveau métier et vraiment d'avoir une vraie résilience cyber qui est importante. Par contre, on a toujours 10% des entreprises qui n'envisagent pas d'ajuster leur approche. Donc, il y a toujours du travail à faire au niveau résilience. Donc, malgré les progrès réalisés dans les entreprises concernant tout ce qui est résilience, il y a encore un gros challenge à ce niveau-là. Donc, quelques résultats pour vous. Il y a des progrès des entreprises dans les 3 dernières années. Par exemple, on va prendre l'exemple du temps de réponse plus rapide. Donc, 73% des entreprises françaises estiment avoir amélioré leur réponse aux incidents cyber. Donc, ça, c'est bien. Donc, on fait des progrès. Confiance aussi améliorée, c'est-à-dire que 71% des réponses cyber ont rassuré leurs dirigeants pour leur capacité à gérer les menaces présentes et futures. Donc, ça, c'est bien aussi. On rassure notre dirigeant, mais il faut avoir aussi une bonne formation et on dit des KRI, KPI qui supportent notre réassurance pour avoir des éléments clés. Par contre, c'est toujours très dangereux malgré qu'on dit ça trop souvent. Et le délai moyen, par exemple, d'identification d'une intrusion était toujours de 207 jours en 2020. Et le délai moyen pour contenir une intrusion, c'était 73 jours. Donc, si vous pensez, on a presque 300 jours quand même, c'est assez large de problématiques d'intrusion pour la détecter, pour la résoudre. Donc, sur ce sujet-là, je vous conseille d'être pragmatique et de faire des découvertes justement d'intrusion au préalable et de se poser la question avant que ça nous arrive, en fin de compte. Il y a de très bons processus pour faire du discovery de brèches, d'intrusions pour savoir qui est déjà rentré chez nous avant justement de passer de 107 jours aux 73 jours pour justement réduire ces cycles de découverte. Le cyberspace n'a jamais été aussi dangereux. Donc, bien sûr, il y a de plus en plus d'attaques. Si vous voyez le niveau de vos vulnérabilités qui ne fait que d'augmenter d'année en année, par exemple, Maze a touché 300 entreprises au cours des derniers mois. Maze, c'est un malware. Donc, enfin, je veux dire, c'est une organisation qui nous attaque. Et par exemple, elle a réussi à toucher presque 300.
Alors du coup, Jean-Bernard semble avoir quelques petits soucis de connexion. Oui, effectivement, on peut peut-être passer à la slide suivante, en attendant qu'ils nous rejoignent. Sur le troisième axe, en fait évoqué par Jean-Bernard tout à l'heure, en fait, on constate. Ah, le voilà de
Non,
retour.
excuse-moi, c'est que ça a pris un petit délai pour venir. Donc, tirer le meilleur parti du budget cyber, c'est-à-dire que il faut pour justement conduire à la résilience, il faut aussi optimiser bien sûr les budgets cyber. Donc, la mauvaise nouvelle en fin de compte, c'est que le chiffre d'affaires des entreprises semble baisser pour 70% des répondants. Leur chiffre d'affaires baisse. La bonne nouvelle, hein, c'est que 50% des répondants pensent que leur budget va augmenter cette année et que 61% prévoient une augmentation justement aussi de leur effectif. Donc la bonne nouvelle, c'est que le cyber va croître et que les exécutifs vont nous donner les moyens justement d'aller un petit peu de l'avant cette année en ressources et en budget. Donc, mais il faut quand même tirer le meilleur parti du budget investi et optimiser bien sûr nos dépenses pour accélérer les programmes de transformation, les choses digitales, avec bien sûr sous l'effet Covid. Donc, optimiser, rationaliser, prioriser et bien sûr dépenser l'argent avec beaucoup d'efficience. Donc, la quantification des risques pour mieux justifier et prioriser les investissements. Donc, le sujet, c'est comment faire. Donc, 18% ont quantifié le risque cyber afin de justifier et prioriser leur investissement. Donc, ça, c'est difficile à faire, mais c'est bien d'avoir des concepts comme la value at risk, la valeur à risque, au risque, du risque, et de vraiment quantifier la probabilité des acteurs, l'efficacité de vos contrôles. De faire une évaluation, bien sûr, des assets qui sont les plus importants, qui sont les plus valeureux, et d'avoir des calculations qui vous permettent de comprendre les vrais coûts, en fin de compte, associés au risque cyber, pour pouvoir quantifier, prioriser. Et 18% des répondants le font bien. 55% des répondants commencent à quantifier les risques et ont réalisé l'exercice à grande échelle. Donc, il y a des dashboards, ce que j'appelle des tableaux en temps réel, qui sont utilisés par ces gens-là pour se connecter, bien sûr, au système technologique cybersécurité et qui collectent l'information en temps réel et peuvent, avec des sources, bien sûr, d'intelligence, computer en temps réel notre posture en risque, en langage risque, pour justement aider aux décisionnaires. Et 19% prévoient d'enclencher la quantification des risques dans les 2 prochaines années. Donc, il y a un petit peu de retard à ce niveau-là, mais je pense qu'il y a un gros effort justement sur comment quantifier, prioriser et vraiment créer une vue risque de tout ce qui est cyber. Alors, quels sont les prochains investissements stratégiques? Donc, là, nous avons discuté un petit peu des choix que l'enquête a révélés sur quels sont les pôles d'investissement que les gens désirent faire. Donc, il y a 4 pôles importants qui ont été identifiés et que les répondants veulent investir dans les 12 mois prochains. Donc, il y a l'amélioration les compétences relatives à la sécurité. Donc, ça, c'est assez général, mais il y a beaucoup de choses à faire, bien sûr, dans tout ce qui est fonction sécurité, que ce soit Identity and Access Management, Vulnerability Management, que ce soit les choses dans la détection, dans la résilience, dans le reporting. Enfin, il y a beaucoup de choses à améliorer, justement. Deuxième axe, c'est mieux quantifier les risques cyber. Donc, on en a parlé un petit peu, mais ça, c'est toujours très dur à faire. Et surtout qu'il y a différentes visualisations des risques cyber, que ce soit au niveau opérationnel, au niveau comité exécutif, au niveau deuxième ligne de défense, par exemple, ou même au niveau troisième ligne de défense. Donc, quantifier les risques cyber pour ces gens-là. Et réduire les coûts des opérations cyber avec l'automatisation et la rationalisation des investissements. Donc, ça, c'est important de pas simplement acheter de la technologie, mais vraiment de qualifier l'optimisation de et le résultat de ces investissements, en fin de compte. Est-ce qu'elles arrêtent vraiment? Est-ce qu'elles détectent vraiment? Est-ce qu'elles sont vraiment distribuées partout où c'est nécessaire? Est-ce que le fonctionnement de ces solutions est optimal? Il y a beaucoup de choses à faire sur justement comment générer des coûts moindres, mais une efficience supérieure. Et le dernier, c'est lier leurs investissements et dépenses en cybersécurité à des indicateurs ou des résultats métiers tangibles. C'est-à-dire que la cybersécurité, par exemple, ça peut éliminer beaucoup de frictions sur le côté clientèle, le côté web, le côté échange d'informations, communication avec vos consommateurs en B2C. Et là, il y a vraiment des efforts justement de quantification vis-à-vis du consommateur directement si vous êtes une entreprise qui justement fait du B2C par exemple. Donc là, il y a un effort de qualification justement de la cybersécurité, des impacts cybersécurité positifs sur nos métiers. Le prochain sujet, c'est quelles sont les priorités d'amélioration de cyber. Alors, l'enquête a révélé deux choses. Donc, il y a des tendances globales, mais il y a aussi des tendances observées au sein des grandes entreprises. Et c'est assez intéressant de voir, en fin de compte, les deux sujets qui sont assez divergents. Donc, les tendances globales sur comment améliorer la cyber sont assez génériques au niveau global. C'est-à-dire qu'on se dit, on va améliorer les compétences relatives à la sécurité. On va faire de la surveillance en temps réel de l'efficacité des contrôles de sécurité. Et on va faire de la gestion moderne des accès et des identités. Donc, ça, c'est des choses qui se passent assez génériquement, c'est-à-dire qu'on va faire les choses mieux, avec plus de moyens. Identity and Access Management, c'est toujours le premier maillon de la kill chain. Donc, quand on a une intrusion, c'est toujours le premier bastion à se faire attaquer. Donc, ça, c'est très important de l'optimiser. Donc, ça, c'est des choses défensives, des choses qui sont importantes, de souche. Par contre, les tendances observées au sein des grandes entreprises de 10 milliards et plus, c'est plus innovant. C'est-à-dire que le Zero Trust, le service de sécurité managé, donc on fait du managed services, tout ce qui est virtualisation, adoption accélérée du cloud, là on voit plus des sujets quand même innovants où les entreprises recherchent à innover justement dans leur mode IAM, mais avec du Zero Trust, qui demande quand même une efficacité et une maturité assez importante au niveau IAM. Tout ce qui est Managed Services, c'est-à-dire comment on prend des fonctions entières de la sécurité et on les optimise en les déplaçant vers des parties tierces qui peuvent performer à des niveaux supérieurs. Comment virtualiser notre environnement, surtout au niveau COVID, pour qu'il n'y ait pas d'impact, justement, si on travaille de la maison ou si on travaille de différentes parties du monde. Et bien sûr, le cloud, tout le monde va vers le cloud en ce moment. Donc, il y a des vrais débats sur le cloud et accélération du move to cloud. Et c'est quelque chose de très, très frappant qui commence à être un sujet que toutes les entreprises discutent en ce moment, mais les grandes entreprises ont plus d'avance sur ce sujet-là. Donc maintenant, je vais passer la parole à Jamal, qui va vous parler de Fit for Growth.
Écoutez, tout d'abord, bonjour à tous. Merci Jean-Bernard. Alors du coup, c'est une petite transition peut-être à cette deuxième partie dans la restitution en fait, des résultats de notre enquête annuelle. Qui a mis en exergue un certain nombre de choses. Donc, je vais peut-être faire une petite synthèse en fait des messages clés qui nous a emmené en fait à réfléchir à une démarche quelque part pour répondre aux enjeux principaux qui sont ressortis de cette enquête. Du coup, pour revenir un petit peu sur les messages qui ont été passés par Jean-Bernard, donc ce qu'on constate clairement, c'est une vraie volonté en fait des entreprises, notamment dans le contexte que l'on connaît, qui est le contexte du Covid, de revoir en fait leur stratégie cyber. Les drivers qui nous amènent à ça sont multiples. Le premier, c'est bien sûr les questions qui ont été amenées par le contexte en lui-même, notamment les enjeux autour de la d'une recherche en fait de l'efficacité, mais également des enjeux autour des constats d'un certain nombre de constats d'échecs qu'ont pu être observés en fait ces dernières années dans le cadre de la mise en œuvre de programmes cyber. Donc le constat est assez clair, 96% des entreprises souhaitent revoir leur stratégie. On constate voilà l'évolution d'un certain nombre de modes de fonctionnement, donc le contexte des entreprises évolue. Il est important, je pense, de garder en tête l'apparition en fait de nouveaux acteurs en fait dans la cybersécurité. Donc, je fais référence notamment aux redéfinisseurs et aux explorateurs qu'évoquait Jean-Bernard tout à l'heure, qui apportent un nouveau challenge aux équipes cyber, mais également des opportunités de s'intégrer de plus en plus dans les décisions en fait qui sont prises par les métiers. Ce contexte Covid, il a clairement amené les équipes cyber à s'impliquer de manière très significative pour répondre voilà aux enjeux de la crise, avec une évolution des modes de fonctionnement qui s'est accélérée, notamment avec le renforcement on va dire du télétravail, et qui a amené un certain nombre d'enjeux cyber auxquels il faut répondre. Et donc clairement, ce contexte-là a permis aux équipes cyber et aux responsables cyber en particulier d'être intégrés de plus en plus dans les décisions en fait de l'entreprise, et de se connecter de manière plus forte avec leur comité exécutif et les conseils d'administration. Donc l'évolution est assez forte. Jean-Bernard parlait tout à l'heure d'un passage de 25 à 50% des répondants qui disent être aujourd'hui intégrés dans toutes les décisions de l'entreprise. On voit clairement une évolution du paradigme, clairement aussi de la réponse aux enjeux de crise, avec une évolution du modèle de la continuité d'activité métier que l'on a pu voir au cours de la dernière décennie, vers un modèle de résilience cyber qui va aussi dans l'intégration des scénarios d'attaque cyber dans les plans de continuité en fait de l'entreprise. Donc ça également, c'est l'évolution des menaces nous a amené et amène les entreprises à avoir des réflexions profondes en fait sur ces sujets-là. Et donc voilà, intégrer cette dimension cyber dans cette dimension de continuité qui est de plus en plus importante à garder en tête, et on a pu le voir dans le contexte Covid avec beaucoup de challenges rencontrés par les entreprises. Le contexte business des entreprises dans ce contexte Covid a également évolué, on l'a vu avec quelques chiffres voilà assez inquiétant, puisque l'impact sur le chiffre d'affaires est clairement quelque chose qui était remonté comme une inquiétude en fait dans le cadre de cette enquête. Néanmoins, pour les équipes cyber, des messages plutôt positifs, avec une réelle volonté de continuer à investir sur ce sujet-là, et voire même à renforcer en fait les investissements qui sont parfois des investissements aussi de rattrapage, puisque des dettes, on va dire, une dette cyber a pu être observée dans un certain nombre d'entreprises. Donc ce constat-là, il est peut-être un petit peu à mitiger selon les secteurs, et on voit des tendances qui peuvent être un peu variantes en fonction des secteurs. Alors tout ça nous amène quand même à une réflexion, et ça nous a amené en tant que PwC à réfléchir à quelque part quelle va être la prochaine étape dans la révision, on va dire, de cette approche cyber et dans la révision de cette stratégie cyber, avec une tendance qui est forte et qui est assez marquée dans les résultats de l'enquête, de recherche, de justification, on va dire, des investissements cyber. En tout cas, cette justification, désormais, il est attendu à ce qu'elle soit en fait quantitative, ce qui n'était pas forcément le cas par le passé. Et donc, il semble y avoir une vraie tendance à cette recherche à la quantification des investissements et à quantification des retours sur investissement des projets cyber. Donc, 73% des répondants de l'enquête disent avoir enclenché ou être en passe d'enclencher à très court terme cette démarche de mise en place de quantification des risques cyber et de justifier en fait leur projet dans le cadre des programmes cyber par cette quantification des risques. Donc on voit beaucoup de tendances de recherche de la performance qui s'accompagne également toujours dans une logique d'upskilling, on va dire, des ressources cyber, mais également de tous les acteurs de l'entreprise. Et on le voit clairement avec l'apparition de ces nouveaux acteurs, une opportunité quelque part de prendre le train au démarrage et d'apporter la bonne sensibilisation et la bonne formation quelque part à ses collaborateurs pour pouvoir réviser nos approches cyber. Donc tout ça, ça nous a amené notamment dans le contexte Covid à réfléchir en fait autour d'une nouvelle démarche. On voit qu'il y a beaucoup de points d'entrée, si je puis dire. Parfois est un euphémisme de manière assez rare et c'est assez clair dans les résultats de l'enquête, une stratégie cyber qui a parfois été définie encore trop peu. Donc ça c'est peut-être un point d'entrée, une évolution des menaces et de nouveaux risques en fait clairement à prendre en compte avec une accélération du digital et une évolution des modes de fonctionnement dans les entreprises avec l'apparition du télétravail comme je l'évoquais, mais également avec une accélération quelque part des transformations que l'entreprise a déjà commencé à opérer et notamment de transformation cloud. Donc on l'évoquait tout à l'heure, c'est clairement un enjeu à avoir en tête, notamment dans la révision de ces stratégies et de ces approches cyber. On voit également des tendances, une pression forte du réglementaire et des enjeux géopolitiques, ce qui a amené parfois en fait à des réflexions notamment de convergence dans les entreprises en termes d'organisation entre une fonction cybersécurité parfois rattachée à l'IT mais idéalement rattachée au comité exécutif et une fonction sécurité globale en charge de traiter des enjeux plus globaux de sécurité physique, de sûreté, et qui traite également des menaces, on va dire, plus globales de l'entreprise. Donc cette évolution du contexte et du paradigme est également un input, si je puis dire, à la réflexion pour revoir en fait cette stratégie cyber. On voit également des tendances d'accélération de l'automatisation. Alors ça s'applique dans l'exécution, on va dire, dans l'exécution du métier dans l'entreprise, mais ça s'applique également à la cyber, puisqu'aujourd'hui on constate de plus en plus d'initiatives qui visent à améliorer la performance cyber au travers d'automatisation. On peut citer comme exemple des démarches d'amélioration des dispositifs de détection, typiquement avec la recrudescence des attaques et donc des alertes qui en ressortent, qui visent à automatiser le processus de remontée et de traitement de l'incident, ce qui permet quelque part de d'anticiper et de prioriser et d'automatiser une partie de cette priorisation des alertes, de telle sorte à ce que les équipes cyber puissent se concentrer vraiment sur les menaces les plus importantes. Donc un premier axe de travail autour de la prise en compte des nouveaux enjeux, et une deuxième dimension qui est clairement la recherche de leviers en fait d'action pour rechercher l'efficience cyber avec une priorisation des dépenses qui devient absolument nécessaire et demandée par les comités exécutifs, avec un meilleur reporting des décisions qui peuvent avoir lieu et également du suivi des programmes cyber. Une recherche de l'optimisation aussi dans la mise en œuvre, on va dire, des technologies au sein des entreprises et notamment du déploiement de ces technologies cyber. Donc, ils peuvent être très multiples, avec un enjeu qu'on a pu constater et qui ressort également des résultats de l'enquête, d'empilement en fait technologique à tel point qu'aujourd'hui les investissements en fait ne sont pas optimisés. Et au-delà d'être de ne pas être optimisés, ce qu'on constate c'est que cet empilement technologique amène parfois à un manque d'efficacité. Et même ultimement en fait à des trous dans la couverture en fait des périmètres de l'entreprise. Donc un vrai enjeu autour de cette recherche d'optimisation en fait des technologies qui ressort clairement de l'enquête. Parmi les autres axes de travail, on a également des axes autour de l'optimisation de la fonction sécurité avec cette dimension de convergence qui est un nouvel enjeu, avec parfois des constats au sein des organisations sur une inefficacité peut-être, un manque d'optimisation de l'organisation et des delivery models qui fait qu'aujourd'hui l'effort on va dire des ressources expertes n'est pas forcément positionné au bon niveau et que d'autre part l'effort des partenaires et fournisseurs n'est pas positionné au bon niveau. Donc des vraies réflexions autour de ces sujets-là. Donc tout ça nous a amené en fait à construire une approche méthodologique qu'on a intitulée Fit for Growth for Cyber. Alors Fit for Growth en fait pour l'historique, c'est une méthode qui a été développée par PwC, en particulier Strategy End, donc nos équipes expertes en stratégie d'entreprise, qui vise la recherche de l'optimisation au travers en fait d'axes d'analyse qui sont assez divers. Donc on a adapté cette approche méthodologique de telle sorte en fait à ce qu'elle soit pertinente dans un contexte cyber et pour qu'elle puisse prendre en compte les axes de travail que j'évoquais précédemment de manière efficace. Donc aujourd'hui Fit for Growth c'est concrètement en fait un framework sur lequel nous travaillons chez PwC et qui cherche à couvrir en fait différentes thématiques. Donc la première thématique, c'est bien sûr la dimension stratégique et l'alignement des stratégies cyber avec la stratégie d'entreprise et les menaces, l'évolution des menaces que j'évoquais tout à l'heure. Une dimension orientée sur l'humain, comment faire en sorte de mobiliser au bon niveau l'ensemble de l'entreprise et comment intégrer en fait la cybersécurité au mieux avec les métiers pour faciliter la mise en œuvre des approches cyber. Donc ce travail là c'est clairement un travail autour de la thématique de l'upskilling mais également autour des méthodes d'analyse de risque. Une autre dimension qui travaille autour des capacités cyber qui vise là à rechercher les bons delivery models pour mettre en place ces capacités cyber. Et tout ça, en fait, avec un cœur, on va dire, un cœur du réacteur qui se focalise en fait vraiment sur les coûts cyber, sur l'analyse de ces coûts, sur la compréhension de ces coûts, parce qu'aujourd'hui, beaucoup d'entreprises n'ont pas forcément une compréhension suffisamment granulaire des coûts cyber en fait de notre expérience. Et donc, pour répondre à cet enjeu qu'on évoquait, que Jean-Bernard et moi évoquions tout à l'heure, de répondre de manière quantitative au retour sur investissement, cette compréhension des coûts est absolument nécessaire. Et donc, au-delà de comprendre ces coûts, le but, c'est d'identifier les leviers en fait qui vont permettre d'optimiser ces coûts et donc de libérer peut-être des investissements pour pouvoir accélérer d'autres initiatives prioritaires. Donc, on a un certain nombre de thématiques qui sont abordées dans le cadre de Fit for Growth. Et donc, ce framework est un framework sur lequel on continue concrètement de travailler, et donc sur lequel on souhaite mobiliser le marché, voilà, de telle sorte, voilà, pouvoir venir apporter au marché une approche qui permette justement de répondre quelque part aux enjeux qui semble ressortir en fait de l'enquête, qui est cette recherche de l'efficience cyber. Donc voilà pour cette partie Fit for Growth. Peut-être Jean-Bernard, avant de passer à la conclusion, il y a un certain nombre de questions, et je vous invite pour ceux qui nous écoutent, à continuer à envoyer des questions sur le chat. Peut-être je peux peut-être enchaîner avec une question. Il y a une question qui nous est posée autour. Alors je vais la lire. Donc qui demande quels pourraient être les leviers, ressources technologiques et humaines pour garantir une veille efficace et une stratégie optimale de cybersécurité pour une entreprise soumise à de nombreuses transformations digitales.
Ça, c'est une question clé, en fin de compte, et on y a répondu par le Fit for Growth. C'est pour ça qu'on a fait une framework. C'est exactement pour ça qu'on a développé une méthodologie pour justement répondre à cette question. Parce que tout le monde se demande quels sont les leviers, ressources technologiques, humaines, comment on peut garantir, en fin de compte, une veille efficace et une stratégie optimale. Donc, ça, c'est des facteurs très, 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 très importants. Et c'est pour ça que 96% des répondants veulent réévaluer leur stratégie de sécurité parce qu'ils ont du mal à quantifier, à rationaliser leur programme aujourd'hui au vu des nouveaux risques, des nouveaux facteurs, des nouvelles transformations, des changements métiers, des changements cloud. Donc, en fin de compte, il faut recalibrer et recalculer, en fin de compte, l'effet cyber sur ces choses-là. Par exemple, les clients me demandent toujours, je suis en train de faire un projet SAP ou je suis en train de faire un projet cloud et l'enveloppe cyber, c'est combien? Donc, ils demandent toujours un petit peu. Moi, ma réponse est toujours, si on n'a pas 10 à 15%, par exemple, du coût total du projet qui est alloué à l'effort sécurité, on va aboutir à une transformation avec trois questions: access management, recovery et impact. Enfin, ça sera donc s'il n'y a pas un investissement au départ et s'il n'y a pas une intégration justement d'un architecte, par exemple, sécurité, d'un ingénieur sécurité, d'un leadership sécurité dans ces gros projets de transformation, une fois qu'ils sont lancés, ce sera trop tard de demander justement ce type de budget et ce sera très difficile justement d'avoir un impact sur ces projets et votre stratégie va manquer d'impact justement sur cette innovation. Donc ça, c'est pour ça qu'on a fait cette nouvelle framework et c'est pour ça qu'on fait Fit for Growth, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup d'accélération de changement et qu'on ne peut pas rester dans la même visualisation que l'année passée. Donc ça, c'est un petit peu la première question. Je vais lire la deuxième question et je vais te la passer, Jamal. Donc, comment maintenir un niveau de sécurité satisfaisant en période de télétravail massif alors que la plupart des collaborateurs utilisent leur propre matériel informatique pour travailler?
Oui, alors, ouais, tout à fait. Alors, du coup, juste peut-être un commentaire. Et là, je pense que ça fait également le lien avec avec Fit for Growth. Et surtout, la jeunesse de Fit for Growth, en fait, c'est clairement le contexte Covid. Donc, clairement, ce qu'on a pu observer dans ce contexte-là, c'est des équipes informatiques qui ont été extrêmement sollicitées dans ce contexte-là pour favoriser en fait le fonctionnement à distance en fait de l'entreprise et le télétravail en particulier. Donc et ce qui a amené en fait à ouvrir parfois certaines portes, si je puis dire, et donc à ouvrir également l'entreprise à des failles de sécurité. Donc je pense que dans cette démarche là, il y a eu effectivement, si je prends un exemple très très concret et technique, parfois je pense à celui-ci tout de suite, pour faciliter le télétravail et l'accès aux ressources de l'entreprise et parfois des ressources cloud, il a été opéré, donné des flexibilités, on va dire, dans l'application des règles de sécurité. Donc on a pu se constater par exemple la désactivation partielle de mécanismes d'authentification forte pour l'accès à certains systèmes, de telle sorte à faciliter et à favoriser ce télétravail. Donc c'est un exemple qu'on a pu constater vraiment s'appliquer sur divers domaines. Je peux en citer un autre, c'est l'ouverture quelque part des accès à privilèges de telle sorte à permettre encore une fois un accès facile au système et en particulier aux équipes cybersécurité qui ont été particulièrement sollicitées pendant cette phase de crise. Donc concrètement, comment maintenir ce niveau de sécurité, son niveau de sécurité? La première bonne pratique, c'est clairement de documenter en fait toutes les exceptions de sécurité qui ont pu être octroyées, on va dire, dans le contexte Covid, de telle sorte à pouvoir refermer les portes dès que possible. Et donc se reposer la question très régulièrement de la fermeture de ces portes qui ont été ouvertes justement pour faciliter le télétravail. Et donc, ça s'applique également. Dans la question, il y a une deuxième partie qui est le fait que les collaborateurs ont parfois utilisé leur propre matériel informatique. Et donc, il y a des réflexions qui sont engagées la manière de contrôler en fait ce matériel informatique et donc accélérer certaines démarches dans le cadre d'initiatives BIOD ou COPE au sein des entreprises. Donc pour synthétiser cette réponse, il y a vraiment deux aspects. Il y a l'aspect vraiment tactique. Comment on trace, documente et referme les portes qui ont été ouvertes pour faciliter ce télétravail et comment on les contrôle a posteriori qu'elles ont bien été refermées. Il y a une vision plus stratégique qui est comment on fait évoluer nos modes de fonctionnement et nos technologies pour permettre en fait aux collaborateurs d'accéder aux ressources informatiques de l'entreprise avec leur propre matériel. Donc voilà ce que je pouvais apporter comme élément d'éclairage sur cette deuxième question.
Donc on a une autre question qui dit: est-ce qu'en 2021 il sera plus facile d'avoir plus de budget cyber pour couvrir les besoins adaptés à la menace cyber actuelle? Donc la réponse, comme 50% des répondants, on a dit oui, et la plupart des répondants disent qu'ils auront plus de budget l'année prochaine. Plus simple, je ne sais pas si c'est plus simple, c'est primordial d'avoir plus de budget parce qu'il y a forcément beaucoup plus de risques, beaucoup plus de changements, beaucoup plus d'innovation. Donc ça, c'est de facto un oui. Par contre, c'est justifié de combien de budget nous avons besoin et d'avoir des règles simples pour pouvoir communiquer à l'exécutif que si on a des projets de transformation, des choses comme ça, il nous faut des personnes dédiées, des capitaux, de l'investissement, des assessments justement pour pouvoir investir au travers de ces objectifs de transformation. Donc de plus en plus, par exemple, les métiers contribuent à l'enveloppe sécurité. Ils veulent faire des projets de transformation. Ils sont obligés de passer par l'acceptance sécurité et la validation de leur business objectif avec un contexte sécuritaire. Donc, je vous encourage à créer ce type de modèle où vous êtes en prime abord des personnes qui valident, qui vérifient, qui architectent justement ces projets de transformation pour avoir une voix budgétaire dans le décisionnel et s'insérer tout au départ pour justement taguer quelques dollars ou quelques euros sur votre budget sécurité et se faire, sponsoriser par ces initiatives autres que votre budget interne sécurité pour pouvoir aller de l'avant. Donc ça, c'est bien. Il y a aussi le concept de la deuxième ligne de défense. Donc si vous avez une bonne relation avec la première et deuxième ligne de défense, ça, c'est une ligne de défense qui peut aussi accéder à des budgets autres, qui peut être complémentaire à l'enveloppe sécurité. Ça, c'est des alliés où vous pouvez trouver aussi des sources de revenus et une collaboration pour pouvoir investir ensemble sur des problèmes sécurité. Donc ça, c'est difficile, mais la quantification que Jamal a articulée et prouver aux exécutifs que ce type de coût a été dépensé et nécessaire pour obtenir ce niveau de maturité est aussi nécessaire pour tout ce qui est nouveau, voilà, pour visualiser, aider le CFO à visualiser ce qu'il doit approuver au long terme. Donc, travailler vraiment avec le CFO, avec l'équipe finance pour qu'ils comprennent vraiment les engagements sécurité au niveau financier, que quand ils approuvent justement un projet, ils sachent poser les bonnes questions au niveau sécurité. Ça vous aidera au long terme.
Du coup, pour rebondir peut-être sur cette question-là, on a une autre question qui est en lien avec les budgets et les coûts cyber, qui est qu'entendez-vous par coûts cyber, avez-vous une définition? Je peux peut-être la prendre et je te laisserai compléter si tu veux, Jean-Bernard. Donc cette question, en fait, elle nous est souvent posée en fait par nos clients. La notion de coût cyber, les challenges qu'on peut avoir, c'est effectivement qu'est-ce qu'il faut intégrer dedans. Est-ce qu'on doit intégrer les coûts de software, les coûts de licence, les coûts d'infrastructure cyber. Et donc c'est souvent ce type de questions qu'on a. Donc dans le cadre de l'approche Fit for Growth et notamment de l'analyse des coûts cyber, on a défini en fait un framework qui vise en fait à structurer ces coûts. Il y a déjà quelques éléments de réponse qui ont été donnés par Jean-Bernard, mais ces coûts cyber, on les structure en fait traditionnellement déjà en séparant les activités en fait de première ligne et les activités de deuxième ligne qui sont de nature différente en fait. Donc en première ligne avec des activités plutôt opérationnelles. Telles que la gestion des accès, donc comment je crée, quels sont mes processus qui me permettent de créer pour un collaborateur un accès dans un système. Donc ça, c'est un exemple d'activité opérationnelle. On en a un certain nombre, on pourrait les détailler. Donc ça passe également par exemple voilà sur les actions des gestions des accès à privilèges, sur la gestion des alertes de premier niveau typiquement. Donc voilà, il y a tout un tas d'activités opérationnelles de première ligne, des activités de deuxième ligne qui intègrent notamment les activités de contrôle et challenge en fait de la première ligne. Des activités d'évaluation typiquement. Et donc ce que classiquement on intègre dans ces coûts cyber, c'est la dimension bien sûr RH interne à l'entreprise, la dimension prestation externe OPEX, mais également la dimension plus d'investissement et donc tout ce qui touche aux infrastructures qui sont acquises en fait, l'entreprise. Donc les trois dimensions que je viens d'évoquer là sont classiquement intégrées dans cette vision des coûts qu'on peut traditionnellement restituer.
Donc je vais étoffer ça au niveau COMEX et je vais répondre à la dernière question. On n'a plus que 5 minutes. Quels sont les principaux arguments qu'on peut demander à nos COMEX pour débloquer justement plus de budget? Donc à ce niveau-là, le COMEX comprend, par exemple, je vais prendre l'aspect des coûts et après je répondrai plus amplement à la question. Par exemple, le COMEX va comprendre les coûts directs. Investigation, remédiation, quand on a une brèche. Donc, il faut les éduquer à, par exemple, Merck a payé 300 millions de dollars vis-à-vis de son investigation, sa remédiation. Moi, j'ai fait partie de la breach response de Home Depot. J'ai parlé pendant 9 mois, je travaillais avec eux. Ça leur a coûté 200 millions de dollars. Donc, ça, ces choses-là sont importantes pour eux à comprendre que s'ils ne font pas la sécurité correctement, ça, c'est les coûts directs qu'ils pourront faire face à. Voilà. Donc, ça, c'est de l'éducation vis-à-vis d'eux. Les sanctions de régulation, c'est-à-dire que s'ils ont 4% de global revenu vis-à-vis de GDPR, 4% du revenu global, c'est important pour la plupart des entreprises. Donc, ça, ils comprennent. Tout ce qui est l'impact au cost, le consommateur et tout ce qui est les impacts business, ça aussi, ils comprennent très bien. Ça, c'est des coûts directs qui puissent leur impacter. Les coûts indirects, c'est par exemple l'augmentation des primes d'assurance cyber. Si on ne fait pas les choses bien, on va payer plus en assurance. Tout ce qui est fraude, ça c'est indirect, mais on peut avoir aussi de la fraude consommateur. Tout ce qui est les class action, donc tout ce qui est litigation juriste, ça coûte très cher aussi qu'on prenne. Les coûts intangibles, par exemple la marque, la perte de confiance à une marque, quand vous parlez d'entreprise, par exemple, dans le cosmétique, les choses comme ça, ils comprennent très bien les impacts à la marque. Les têtes qui tombent, c'est dommage à le dire, mais c'est vrai que les expériences avec des choses graves au niveau cyber, par exemple, dans le cas de Equifax, où le CEO et le CIO ont demandé de changer de travail. Et aussi pour quand vous faites une merger and acquisition, quand on fait une acquisition, par exemple, tout ce qui s'était passé avec Yahoo, où il y avait 350 millions de réduction du prix de l'acquisition vis-à-vis de Verizon et Yahoo. Donc, ça, c'est des choses quand même matérielles que le comité exécutif comprend. Donc, pour répondre plus pleinement, en fin de compte, à la question, les arguments, en dehors des coûts directs, indirects et intangibles, je pense qu'on fait en général un bon récapitulatif, excusez-moi, de ce que c'est la cyber. Les exécutifs ne comprennent pas forcément la définition de la cyber et surtout la définition de la cyber résilience. Donc ça c'est important. Ensuite, on couvre tout ce qui est threat landscape, sont les dernières nouvelles vis-à-vis des threats. Ça, c'est aussi beaucoup d'informations parce que c'est difficile pour eux de visualiser un petit peu l'évolution de ces attaques, des choses qui se passent dans le marché. Donc, on essaie de quantifier et de leur donner un petit peu un appétit au risque qui augmente. Et après, on les éduque sur leur rôle. Donc, quelles sont les questions à poser? Quelles sont les choses qu'il faut qu'ils fassent? Quelles sont les choses dont ils sont responsables directement au niveau sécurité? quels sont leurs niveaux de maturité dans l'entreprise. Qu'est-ce que ça veut dire d'être au niveau 1, 2, 3 au niveau maturité? Leur performance, ils en sont où au niveau performance en sécurité? Tout ce qui est KRI, KPI, les dashboards où ils peuvent vraiment consommer l'information sécurité. Tout ce qui est régulation, est-ce qu'ils sont en phase de faire tout ce qui est résilience, top pas des risques, voilà. Et puis aussi leur rôle dans les budgets, leur rôle dans tout ce qui est transformation et bien leur faire comprendre en fin de compte les étapes risques, les étapes cyber et leur rôle dans l'environnement cyber. Donc, on fait beaucoup. Moi, je fais beaucoup de présentations au board, et il faut vraiment qu'ils comprennent, en fin de compte, leur responsabilité cyber et le fait qu'ils doivent être éduqués sur ces sujets-là, comprennent vraiment les coûts, comprendre ce que c'est la résilience, comprendre pourquoi vous allez leur demander plus de budget. Donc, ces choses-là, on a des bonnes choses. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me contacter plus tard. C'est des sujets assez étoffés. Mais je voulais vous remercier. Donc, maintenant, on a une petite enquête. Si vous pouviez répondre à ces petites questions qu'on vous pousse là, ce serait très gentil. Dernier mot, Jamal ?
Ouais, juste pour rebondir sur cette… donc, on est sur la phase de conclusion. On vous remercie tous d'avoir participé à cette webcast. Pardon. Ce que je voulais ajouter, c'est qu'on… On dispose en fait de tout un tas de benchmarks en fait sous-jacents à ce qui vous a été présenté aujourd'hui, qu'on est totalement prêt à partager avec l'ensemble de la communauté. Donc n'hésitez pas à revenir vers nous si vous le souhaitez pour qu'on puisse partager avec vous ces éléments-là. Donc vous recevrez prochainement voilà un mail qui fera suite à cette webcast avec nos coordonnées ainsi que le lien vers le podcast de cette webcast. Voilà. Deux prochains événements qui sont planifiés. Donc on a l'événement donc Vision croisée compétitivité technologique qui vient très vite en fait le 9 décembre pour lequel donc des invitations ont été communiquées et en janvier en fait nous prévoyons également de partager plus en détail et plus largement en fait sur la question du fit for growth que j'évoquais tout à l'heure qui permettra d'aborder en fait les différents leviers d'optimisation que j'ai pu introduire tout à l'heure donc en janvier. Voilà pour les prochains rendez-vous. J'étais ravi de participer à cette session et on vous remercie d'avoir participé à cette webcast.
Merci beaucoup.
Merci à tous.
Au revoir, bonne journée.